engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
C'est incontestablement une grande dame qui nous a récemment quittés. Hélène Moucharzé est décédée au cours de la soirée de ce lundi 2 mars, à l'âge de 85 ans. Personnalité incontournable à Orléans, on lui doit notamment la création d'un haut lieu de la mémoire de la Shoah en 1991, le CERCIL, le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret. D'abord fondatrice, puis directrice, et enfin présidente de cette institution jusqu'en 2019. Renommé musée mémorial des enfants du Veldiv en 2011, ce site situé dans la rue du Bourdon-Blanc a été créé pour une raison, rappeler à toutes et à tous la considérable importance des camps d'internement du Loiret dans le génocide juif perpétré par l'Allemagne nazie. Et avec cette idée, rappeler aussi l'impact de la collaboration française au cours de la Seconde Guerre mondiale. Hélène Moucharzé, c'est aussi un héritage, celui de son père Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts sous le gouvernement du Front populaire en 1936. Il a été tué par la milice le 20 juin 1944, après plus de 3 ans et demi d'emprisonnement. Hélène Moucharzé a beaucoup contribué à l'entretien de la mémoire et des valeurs portées par ce père qu'elle n'a quasiment pas connu. Cette mémoire, cette sensibilité et cette tendresse pour son père nous ont été contées par cette dernière à notre micro lors d'une grande émission spéciale. C'était le 11 juin 2013, au micro Hassan Kerim, accompagné de la rédaction étudiante de Radio Campus Orléans pour plus d'une heure d'entretien. C'est à retrouver maintenant sur la Rédac Pop.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
On va maintenant parler de Jean Zay, votre père, avocat, personnalité politique française de la Troisième République, né à Orléans. Vous le saviez, ça, les jeunes, domicile
Oui, je savais juste qu'il était né.
Parce que t'as regardé
Orléans,
Wikipédia.
Mais... si, je savais pour Orléans, mais pas, pas plus.
Nickel. Et assassiné hein, par les milices à la solde des nazis dans l'Allier le 20 juin. 1944. On va commencer par, je disais au début de l'émission, c'est pas toujours tout ce que Jean Zay a pu faire pour l'université. Il était ministre de l'Éducation nationale, hein, c'est ça, et des Beaux-Arts. Et voilà, c'est Edouard qui se charge de poser les questions sur Jean Zay et l'université.
Oui, parce que donc Jean Zay, on connaît un petit peu quand même sur Orléans, on entend souvent parler, ne serait-ce qu'à l'école, dans tout un tas de cérémonies officielles, mais on connaît pas trop ses réalisations, et notamment sur l'université. Là, on est quand même au campus, il y a énormément de réalisations sur l'université. Et notamment, peut-être une des plus importantes qui est restée jusqu'à maintenant, c'est le Comité supérieur des œuvres en faveur de la jeunesse scolarisée et universitaire. Donc c'est en fait l'ancêtre du CROUS, hein, qui gère tous les services sociaux de l'université. Donc, est-ce que, je ne sais pas si vous nous parlez un petit peu de cette réalisation-là.
Écoutez, oui, d'abord, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, lui-même était très jeune. Hein, et je crois qu'il s'est toujours considéré comme représentant de cette jeunesse, même s'il était à un poste évidemment important, mais il pouvait faire quelque chose. Et puis deuxièmement, il avait un très grand ministère qui regrouperait ici l'éducation nationale, la culture, la recherche, l'université et jeunesse et sport. Il avait tout ce ministère, si bien qu'il a pu faire, et je voudrais dire ça en préalable, une grande politique de la jeunesse, sans séparer la jeunesse en tronçons, d'un côté, globalement, et sur les étudiants en particulier, dont il s'est beaucoup occupé. En effet, cet ancêtre du CROUS permettait de venir en aide aux étudiants les plus défavorisés et permettait surtout, et ça c'était l'esprit de 1936, c'est-à-dire l'esprit du Front populaire, permettrait à chaque étudiant, quelle que soit son origine sociale, même ceux qui n'avaient pas beaucoup de ressources familiales, de faire ses études. En même temps que ça, je crois que, mais vous allez sans doute le rappeler, il a à peu près doublé le montant des bourses pour les étudiants. Et il a presque triplé le nombre des bourses. Et c'était très important à l'époque, parce qu'en effet, ça permettait aux étudiants qu'on appelait à l'époque nécessiteux, c'était le vocabulaire un petit peu de l'époque, de faire des études dans des conditions correctes.
Effectivement, parce qu'il a doublé les bourses, le montant des bourses dès 1936. Donc dès son arrivée au pouvoir, en fait, il a doublé le montant des bourses et leur volume, c'est-à-dire leur nombre aussi, a été multiplié par entre 2,5 et 3. Donc assez important. De même, il y a eu des efforts sur la médecine préventive. Hein. Il y a nous à Orléans, on a hérité de ça, on a le centre de médecine universitaire Jean Zay. Il faut savoir que surtout, c'est une époque où les étudiants ont énormément de problèmes. Hein. de médecine. C'était le grand sujet dans les années 30 pour les étudiants. Donc, il y a la médecine universitaire. Là encore, favoriser les étudiants issus des classes populaires.
Oui, il faut dire qu'il y avait une maladie qui faisait des ravages, c'était la tuberculose, hein, qui, on ne connaît plus ça maintenant, qui est le BCG, mais il y avait beaucoup, beaucoup de malades, et surtout parmi les jeunes, et surtout dans les milieux où on n'avait pas forcément, pour des raisons tout à fait matérielles, une hygiène de vie. Donc la médecine préventive, c'est très important pour prévenir cette maladie-là en particulier. Et parallèlement, il a développé beaucoup les sanatoriums. Ça aussi, je pense que vous ne devez pas savoir ce que c'est, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, je crois. Parce que la tuberculose, normalement, est éradiquée, mais c'était très important. Et c'est, on voit encore des reliefs dans les montagnes de ces endroits. Enfin, il y a un grand roman de Thomas Mann qui raconte ça à la montagne magique, cette ambiance dans les sanatoriums. Et je crois que ça a été quelque chose de très important. Autrement dit, il prenait l'étudiant dans sa globalité, dans sa santé d'abord, dans son bien-être physique, et puis aussi dans son bien-être culturel, mais ça je pense que vous allez en parler.
Oui, alors pour poursuivre là sur les étudiants, donc on dit nécessiteux, ou l'idée d'ouvrir l'éducation et notamment l'enseignement supérieur à tout le monde, il avait un projet donc, qui a abouti en fait qu'après sa mort, c'était l'ENA, qui n'a pas forcément ce nom-là à l'époque, mais l'idée c'était de créer une école unique, pour sélectionner et former tous les futurs hauts fonctionnaires, quelle que soit la condition, pour éviter justement une nomination par réseau, essayer de créer une école unique. Donc ça, c'était son projet, qui lui n'a pas abouti tout de suite, parce qu'en 1938, c'était rejeté par le Sénat, mais qui a abouti, après la guerre, à l'ENA.
Oui, alors vous l'avez dit, il n'existait qu'une école libre des sciences politiques à l'époque, pour former ce qu'on appelait les hauts fonctionnaires, qui, en effet, était très sélective. Et lui, il veut créer, vous l'avez dit, l'École nationale d'administration, mais dans un esprit, et il en parle dans le livre qu'il a écrit en prison, Souvenirs et solitude, pour ouvrir, en effet, l'accès à tous les étudiants capables de... Enfin, d'abord, dont le goût... qui avait envie de faire cette formation, l'ouvrir à tous. Et il a là-dessus une phrase que je cite souvent, parce que je la trouve très belle. Il dit quel enfant du peuple a jamais pu être ambassadeur. Autrement dit, là aussi, on retrouve le grand esprit du Front populaire, c'est-à-dire le au service du peuple, afin que chaque enfant du peuple, que ce soit à l'école primaire, au lycée, à l'université, ailleurs, puisse choisir les études qu'il veut et surtout devenir haut fonctionnaire. Et je voudrais juste ajouter là-dessus, quand il est en prison, donc emprisonné par Vichy, et qu'il écrit « Souvenirs et solitude », c'est un livre où à la fois il revient sur son action passée et où il se projette dans l'avenir, parce qu'évidemment, qu'il faudra faire pour améliorer cette république qui s'est effondrée en 1940. Et il parle en particulier de ces hauts fonctionnaires dont, dit-il, enfin, que la République, dit-il, n'a pas su former. Et ces hauts fonctionnaires qui n'étaient pas formés, qui n'avaient pas appris à servir la République, eh bien, ils ne l'ont pas défendu. Et c'est aussi dans cet esprit-là qu'il avait voulu créer l'École nationale d'administration. Alors, le projet, en effet, a rencontré, comme beaucoup de ces projets, parce qu'ils étaient novateurs et qu'il y avait beaucoup de conservatisme là-dessus, beaucoup d'intérêts privés. Ce projet a été bloqué parce qu'il l'a déposé assez tôt et en effet a été repris à la Libération par en particulier Michel Debré. Mais on a oublié en effet, pendant de très longues années, on a oublié de dire quelle était la paternité de la création de cette école.
Justement, Jean Zay a énormément œuvré pour la France. Il a eu de nombreuses fonctions d'État, il a fait beaucoup de réformes. Il était connu pour ses idées, je crois, antimilitaristes et pacifistes. Comment expliquez-vous un tel déchaînement sur lui au moment de la guerre, quand il y a eu une violente campagne de presse par Philippe Henriot, ensuite qu'il a été condamné à la déportation à vie et qu'il a eu la dégradation militaire? Pourquoi un tel déchaînement à ce point? Parce que c'est très violent et puis finalement il a été en plus assassiné par des miliciens, donc... Voilà,
oui, alors, j'ai peut-être été un tout petit peu longue, mais je crois qu'en fait, il faut expliquer. Il s'engage dans la politique très jeune, et à cette époque-là, il faut le rappeler, la France sort de ce massacre absolument incroyable qui a été la guerre de 14. Toutes les familles sont traumatisées, à peu près toutes les familles ont perdu un ou plusieurs jeunes. Ça a été... massacre abominable d'énormément de jeunes. Et à ce moment-là, il y a en effet un courant en France qui est un courant pacifiste, c'est-à-dire on ne veut plus revoir la Der Deder, on ne veut plus revoir cette guerre. Et donc à ce moment-là, comme beaucoup de gens de sa génération, il faut savoir que son père, Léon Zay, a été au front pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, qui donc il a été élevé par sa mère, et avec l'angoisse, qu'est-ce qui va arriver au père? Bon. Donc il est un petit peu dans cette configuration de l'époque. Et puis très vite, à partir du début des années 30, c'est ce qu'on appelle la montée des périls, c'est-à-dire la montée des fascismes. 1933, Hitler accède au pouvoir légalement. Il faut toujours rappeler que c'est légalement. Il y a un peu plus tôt, il y a le fascisme en Italie. Et donc, très vite, il prend conscience que le pacifisme ne va pas répondre à ce danger. Alors que beaucoup d'autres personnes restent pacifistes. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, enfin, on ne peut pas analyser toute la situation historique, mais Hitler, peu à peu, va avancer ses pions en réoccupant la Ruhr, en réarmant l'armée, etc., etc., jusqu'à Munich, qui est la capitulation des démocraties occidentales devant les pays fascistes. Et il ne va pas rencontrer la résistance que les pays démocratiques auraient dû mettre en place, justement par peur de la guerre. Munich, qu'est-ce que c'est? C'est, oh là là, on veut surtout pas la guerre, donc on abandonne la Tchécoslovaquie. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père Jean Zay, lui, a toujours défendu. Il a toujours dit qu'il fallait résister à Hitler très tôt, avant beaucoup d'autres gens. En 1936, il a été partisan de l'aide aux républicains espagnols. Vous savez qu'il y avait une guerre civile en Espagne en 1936. Qui a demandé de l'aide au Front populaire, qui venait d'arriver. Et il y a eu toutes sortes de discussions. Et Blum, qui était le président du Conseil, la mort dans l'âme, a décidé la non-intervention. Mais mon père a soutenu, lui, l'intervention. Tout ça, c'est des motifs de haine politique que je suis en train de d'énumérer. Donc, partisan de... Il a été contre les accords de Munich, qui, comme je viens de le dire, au fond, laissaient les mains libres à Hitler pour... ça va aboutir à la Tchécoslovaquie et puis toute la suite. Bref, il a toujours été partisan d'une résistance très forte et très précoce à Hitler. Premier motif. Deuxième motif, il était de gauche. Dès le départ, son parti, c'était le parti radical, mais il était à la gauche du parti radical, parce que ce parti, on sait que c'était le vieux parti de la Troisième République, qui avait une droite qui avait été à peu près dans tous les gouvernements. Lui, très jeune, il est parmi les jeunes radicaux, qu'on appelait à l'époque les jeunes turcs, et il a été partisan de l'alliance du parti radical avec la SFIO de l'époque pour constituer le Front populaire. C'est-à-dire, il a été un des artisans, d'une certaine façon, du Front populaire, parce qu'il a amené son parti radical à participer au Front populaire. Deuxième motif de... Et puis, j'ai oublié, enfin, j'ai pas oublié, mais j'y viens, dès 1932, quand il se présente aux élections pour être député, il est l'objet d'une violente campagne, parce qu'il est d'origine juive. Son père est juif, et cette haine, alors on imagine mal, surtout je crois des gens de votre génération, imaginent mal ce qu'était l'antisémitisme à l'époque, dans les années 30. La violence verbale, mais même physique, enfin on peut donner toutes sortes de visions, qui se déchaînait. Et lui, tout jeune, il a 27 ans, il entre dans la vie politique, tout de suite ici à Orléans, il est victime d'une campagne antisémite qui ne va jamais faiblir jusqu'à son assassinat. Et j'y reviendrai si vous voulez, mais ça a été un facteur très important. Il était en outre franc-maçon, donc on connaît aussi toutes les campagnes contre les francs-maçons de l'extrême droite. Là, je parle de la haine de l'extrême droite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas encore dans la guerre, mais avant-guerre, il y avait une droite, une partie de la droite, qui était contaminé largement par les idées de l'extrême droite et qui reprenait finalement les thématiques. Alors, on peut peut-être, qui reprenait certaines thématiques de l'extrême droite.
Mais on va y revenir parce qu'en fait le déroulement de cette émission, c'est qu'on va vous faire réagir sur l'actualité. On va passer un peu de musique avant. Hein, on va faire des allers-retours entre l'histoire et l'actualité. Oui, juste après. On va passer un peu de musique pour respirer, Domitil. On va faire ça, maestro.
You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding dong ditch a televangelist. It's only been a week, but I know that you are mine to keep. A radar detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I go. Detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. You are always looking out for me because. Detector. I drive 1,000 miles an hour and I won't go on and on and on and you are always looking out for me.
En réalité, à l'instant, sur Radio Campus Orléans 88.3 FM.
On va continuer, hein, sur, on en était resté avant la pause musicale à toute la haine autour contre Jean Zay. On va continuer là-dessus, Domitil.
Oui, qui a été frappante justement, et on se demandait pourquoi autant de haine, voilà.
Oui, alors je viens d'en parler, donc c'est à la fois une haine politique et antisémite, hein, qui correspond tout à fait à la violence politique de l'avant-guerre. Donc arrive la défaite, et vous le savez, Vichy prend le pouvoir à la faveur, si je puis dire, de cette défaite, donc un régime d'extrême droite et violemment antisémite. On sait que Vichy, dès juillet 1940, va prendre des mesures contre les Juifs. Et lui, motif supplémentaire de cette haine dont je n'ai pas encore parlé, c'est que, vous savez qu'en juin 40, au moment où les Allemands avancent de façon foudroyante, il y a une réunion importante à Bordeaux du gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a deux camps, il y a les partisans avec Pétain, de ceux qui pensent qu'il faut signer l'armistice. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent qu'il faut continuer la guerre. Continuer la guerre parce qu'il y avait les moyens de continuer la guerre. La France, certes, avait été vaincue, mais il y avait les Alliés, il y avait l'Angleterre, il y avait les pays, ce qu'on appelait les colonies à l'époque, où l'armée était intacte, et la flotte française était absolument intacte. Donc, il y a des gens qui pensaient qu'il fallait continuer la guerre, mais évidemment hors du territoire français. Et Jean Zay est parmi ceux-là. Donc motif supplémentaire de haine de Pétain et de ses partisans qui prennent le pouvoir. Lui va s'embarquer avec Mendès France en particulier, donc vous connaissez le nom je pense, sur un bateau pour continuer la lutte en Afrique du Nord. Au même moment où De Gaulle, lui, s'envole vers l'Angleterre. Donc c'est les premiers résistants, si on peut dire, ceux qui pensent qu'il faut continuer la guerre contre Hitler. Et Pétain, à ce moment-là, voit une occasion de se débarrasser d'adversaires dont il sait qu'ils vont être très gênants, parce qu'ils sont hostiles à l'armistice. Donc il va faire arrêter ses hommes en arrivant au Maroc. Alors qui est-ce qu'il fait arrêter? Il fait arrêter les quatre parlementaires qui étaient sous les drapeaux. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en 1939, au moment de la déclaration de guerre, mon père démissionne du poste de ministre pour s'engager. Et il dit, il écrit une lettre au président du conseil en disant, voilà, je démissionne parce que je veux partir faire la guerre, je veux partager le sort de ces jeunes dont je me suis occupé pendant ces 3 ou 4 ans. Donc il part faire la guerre, il fait la drôle de guerre, et ensuite je reviens donc à l'époque de juin 40. Donc, Vichy le fait arrêter ses quatre parlementaires, mais lui en particulier, qui va être le plus lourdement condamné, parce que on l'accuse, figurez-vous, de désertion. De même qu'on a accusé de désertion De Gaulle, parce qu'ils avaient quitté le territoire français. Alors qu'il s'était engagé, il était volontaire pour toutes les missions les plus bien. Enfin, c'est une accusation qui ne tient pas. Le procès, c'est une parodie de procès. Il se déroule le 4 octobre 1940. Tous les témoins, ses chefs, disent qu'il a fait preuve d'un courage extraordinaire, que l'ennemi n'était qu'à 100 km. Donc, tout le monde montre. Mais il est quand même condamné, donc c'est sur ordre. Le tribunal militaire le condamne sur ordre. D'ailleurs, il délibère 5 minutes, je crois. Et il est condamné à une peine qu'il faut rappeler, la déportation à perpétuité et la dégradation militaire. Pour des gens qui connaissent un peu l'histoire, ça évoque tout de suite qui, un personnage connu, c'est la peine de Dreyfus. Dreyfus, vous connaissez l'affaire Dreyfus, il a été condamné exactement à la même peine. Or, cette peine, depuis Dreyfus, n'avait jamais été... Jamais, pas une seule fois. À tel point qu'il a fallu que les journaux, la presse, aillent chercher qu'est-ce que c'était que cette peine et comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer, puisque à l'époque, c'est la déportation à l'île du diable, hein. C'est pas la déportation qu'on va voir quelques années après en Pologne. Et donc, manifestement, ce verdict, cette condamnation, c'est d'abord, en effet, pour attaquer son honneur. Mais c'est aussi une revanche, et ça c'est les historiens qui le disent, une revanche de l'extrême droite et de l'armée qui le juge, c'est un tribunal militaire qui le juge, contre l'affaire Dreyfus que vous connaissez. Donc c'est un procès politique, c'est le premier politique qui est intenté par Vichy contre une de ses victimes, et c'est en effet une des premières victimes de Vichy. Cette peine, on ne va pas pouvoir l'appliquer parce qu'on ne peut pas envoyer un bateau traverser l'Atlantique parce que c'est la guerre. Donc Vichy l'emprisonne, alors d'abord à Clermont-Ferrand, ensuite à Marseille et ensuite à Rion. Et c'est au terme de cette détention, au cours de laquelle il écrit ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un livre dont beaucoup disent que c'est un livre admirable, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et le 20 juin 1944, des miliciens, alors rappelons que la milice avait été créée par Vichy, et que l'ordre d'assassinat, j'y reviendrai si vous le souhaitez, a évidemment été donné par Vichy. Les nazis regardent ça de loin, mais c'est vraiment la responsabilité de Vichy. Et c'est la alors donc il assassine, on y reviendra. Et c'est la raison sans doute pour laquelle, pendant des années, la mémoire a été difficile, parce que vous savez qu'à la libération, la France a préféré se souvenir de la résistance plutôt que de la collaboration. Et de Gaulle plutôt que de Pétain. Et donc cette mémoire, mais on y reviendra je pense, a été difficile, comme la mémoire en général des crimes commis par Vichy.
J'avais une autre question qui est un peu plus personnelle. C'est que en fait vous êtes la cadette de votre famille et vous êtes née donc après son arrestation. Quel regard est-ce que vous portez sur votre père, sachant que en fait vous ne l'avez peut-être pas personnellement connu, mais qu'il est connu de tous et qu'il est très présent dans la mémoire française. C'est un peu, c'est une icône.
Oui, alors en effet, je suis née 10 jours après son arrestation, en août 1940, au Maroc. Et vous imaginez dans quelles conditions ma mère a pu vivre cet accouchement. Pour vous donner un exemple concret de cette haine au Maroc, hein, mon père avait été transféré à Clermont-Ferrand et ma mère a eu les plus grandes peines à trouver une clinique qui accepte de l'accueillir pour accoucher. Pourquoi ? Parce que c'était la femme de Jean Zay qui était l'objet de cette campagne de presse incroyablement violente et antisémite. Et donc, c'est grâce à une famille de juifs marocains qu'elle a pu finalement trouver chez une sage-femme, etc. Mais bon, vous imaginez les circonstances de cette naissance. Hein, qui... Alors, ma mère va rester au Maroc pendant 6 mois et va rejoindre mon père à Rion. Il est en prison et elle va... chercher un petit appartement, elle va rester à ses côtés, enfin à ses côtés, elle va lui rendre visite tous les jours tant que c'est possible, ça ne va pas être possible rapidement. Et donc, moi ce que je peux dire, c'est que oui, j'ai connu mon père. Pourquoi ? Parce qu'au début, il a obtenu le droit de visite, et donc ma mère, moi j'étais tout bébé, venait dans la prison. Ma sœur, qui est plus âgée que moi de 4 ans, allait à l'école. Et très souvent, elle me laissait dans la prison. Mon père me gardait toute la journée. Elle allait vaquer à diverses choses. Donc, j'ai à la fois très bien connu mon père, longuement, mais je n'ai pas de souvenirs, puisque je n'avais pas 4 ans quand il était assassiné. Quant à ce à quoi vous faites allusion, mon enfance, comme celle de ma sœur, ça a toujours été... Le père absent, bien sûr, et vous imaginez à quel point pour un enfant c'est important. Il y a eu cette violence de l'assassinat dont on a très vite eu conscience, même si notre mère a beaucoup cherché à nous protéger. Mais il y a eu en même temps, et vous l'avez dit, une présence dans la mémoire, dans les discours, dans les cérémonies. Moi je me souviens de cérémonies à la Sorbonne ou ailleurs, d'hommage à Jean Zay, et toujours ce père...
Avant peut-être de poursuivre sur la question de la mémoire de Jean Zay, terminer rapidement sur ses réalisations, notamment à l'université scolaire. Un point important, qui est une question qui est plus de jamais d'actualité, c'est la question de l'orientation, puisqu'il y a l'origine du Bureau universitaire des statistiques qui a donné naissance plus tard à l'ONISEP. Vous pouvez en parler un petit peu ?
Oui, alors un mot-clé en effet de son action, c'est l'orientation, vous avez raison. Orientation déjà pour les plus petits, hein, que... Il crée une sixième d'orientation avec l'idée que c'est une charnière entre l'école élémentaire et ce qu'on n'appelait pas encore le collège. Donc l'idée qu'il est extrêmement important que l'enfant puisse choisir, selon ses goûts et ses aptitudes, puisse choisir, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passait avant. Hein. Et donc, en effet, pour l'université... C'est pas lui qui a créé le bus, hein. Le bus existait avant, mais à partir du bus et des bureaux universitaires de statistique et d'Alfred Rosier qui s'en occupait, qui a été un collaborateur très proche, que j'ai bien connu, il a en effet développé l'orientation pour les étudiants.
Alors, autre point, un peu difficilement vu qu'on est à l'Université d'Orléans, on ne peut en parler, c'est le CNRS. Puisqu'il a réorganisé la recherche scientifique qui aboutit en 1939 à la création du CNRS.
Oui, alors ça, il l'a fait avec quelqu'un qui est très connu, c'est Jean Perrin, le savant Jean Perrin. Alors, il y a tout un pan, en effet, de... Il était ministre de la Recherche, hein, donc il a favorisé, en effet, la recherche. D'abord, en augmentant les crédits pour la recherche, ça c'est important, parce que à chaque fois, il se bagarrait. Il a passé ses années de ministère à se bagarrer pour avoir des crédits pour tout ce qu'il voulait faire. Donc, en effet, le CNRS va permettre de rassembler tout ce qui se fait sur le plan de la recherche en augmentant les moyens. Et puis, il faut rappeler aussi, on parlait de l'orientation. Déjà, on parlait à l'époque de chômage des jeunes diplômés. C'était déjà un problème, ce qu'on a du mal à... On a l'impression que c'est un phénomène de contemporain, mais pas du tout. Et donc, lui, il va faire le maximum pour agir de cette façon-là. Et en particulier d'une façon, c'est que pour l'école au sens élémentaire et secondaire, il a créé énormément de postes. Je crois que, enfin, je vais pas me tromper sur le chiffre, je crois qu'il a créé plus de 10 000 postes pour dédoubler les classes. À l'époque, les classes étaient plus de 35 élèves. Donc, il dédouble. Donc, évidemment, pour dédoubler, il faut des profs. Il faut des profs, c'est-à-dire, il faut des postes à l'agrégation. Et donc, ça va pour beaucoup d'étudiants être un débouché, enfin des étudiants qui voulaient être profs évidemment, ça va être un débouché qui va être important.
Et tout ça en période de crise économique, parce qu'on rappelle aussi, toute cette réalisation-là, c'était dans les années 30, grande crise économique, donc dans un contexte qui n'était pas favorable à de telles réalisations.
Absolument, vous avez raison, et il raconte dans Souvenir à solitude à quel point, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque chose qu'il voulait faire, c'était une bagarre avec le ministère des Finances. Il raconte même ça avec humour, mais il explique cette toute-puissance du ministère des Finances et qu'à chaque fois, et il l'a emporté quand même pas mal parce qu'il avait la force de la conviction, il avait le soutien de Blum et il avait cet esprit de 1936 qui mettait au cœur de l'action, évidemment, l'éducation et la culture. Faut rappeler aussi que, et pour les étudiants, il y a eu évidemment des conséquences aussi, Front populaire, c'est la semaine de 40 heures et c'est les congés payés. Donc il y a un champ totalement nouveau qui s'ouvre, c'est les loisirs. C'est les loisirs. Il faut se rappeler que les ouvriers, mais on a du mal, les ouvriers n'avaient jamais une journée de vacances avant 36. Pas une journée de vacances. C'est-à-dire qu'on... Alors, on voit des films là-dessus, des images de l'époque qui voient sur des vélos les gens aller vers la mer dans cet enthousiasme extraordinaire. Donc, ils voient la mer pour la première fois. Il y a une très belle photo où on voit mon père au milieu de gamins, manifestement de familles très populaires, avec leurs besaces et tout. Ils sont à la gare de Lyon et ils partent pour la première fois en colonie de vacances au Sable d'Olonne. On ne se rend pas compte, mais à quel point ça a été pour les gens une nouvelle, enfin pour les classes populaires surtout, et ce qui a provoqué la détestation d'une autre partie de la population, mais ça a été une nouvelle ère. Et donc, je ne sais plus où j'en étais, mais oui, pour ses loisirs, du coup, en tant que ministre de la Culture, il a réfléchi à cette question-là. C'est ce temps libre nouveau, le concept de temps libre qui n'existait pas avant, les ouvriers n'en avaient jamais, c'est clair, parfois même ils travaillaient le dimanche. Bon, qu'est-ce que l'État peut proposer avec l'idée que l'État a une responsabilité en matière culturelle? Non pas de dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut voir, etc., mais de permettre l'accès, et l'accès en particulier aux étudiants, aux musées, au théâtre, au cinéma, à tous les lieux culturels, pour lesquels il ne fallait pas que le prix d'entrée soit un obstacle. Donc, il va avoir toute une politique d'accès à tous ces gens qui découvrent, qui ont du temps libre.
Il était, justement, juste une question là-dessus. Est-ce qu'il avait conscience qu'il marquait l'histoire? Vous avez cité Léon Blum, qui était le président du Conseil. Il était dans le gouvernement avec un monsieur qui s'appelle Léo Lagrange, qui on connaît tous les Léo Lagrange. Est-ce que
les auberges de jeunesse.
Absolument, les auberges de jeunesse. Bon, j'ai lu le livre. Hein, il faut absolument le livre, Souvenirs et solitude de Jean Zay chez Belin, je crois. C'est ça. Oui.
Édition Poche.
Est-ce que il a laissé des écrits pour qui prouvent qu'il avait conscience, ils avaient conscience de d'écrire l'histoire quelque part ou pas?
Je ne sais pas s'il avait conscience d'écrire l'histoire. D'abord, il était très jeune et pour lui, il avait l'avenir devant lui. Donc, alors, il a laissé beaucoup d'écrits, mais d'écrits qui sont liés à son activité de ministre, de discours qu'il a fait, dont certains sont en effet très beaux, parce qu'il écrivait lui-même ses discours, hein, contrairement à l'époque actuelle. Il a fait, par exemple, un très beau discours aux obsèques de Ravel, qui est resté un peu dans l'histoire. Mais je crois qu'il était tellement dans l'actualité, l'urgence de faire passer les réformes qu'il voulait passer, malgré l'opposition quand même. Il a eu des oppositions très fortes. Et puis aussi, l'urgence d'une situation internationale qui était très préoccupante, hein, parce que ça, c'est toujours présent. Alors, il a laissé beaucoup de notes, etc., que ma sœur et moi, nous avons déposées aux Archives nationales il y a 2 ans, donc qui sont maintenant accessibles à tous ceux qui veulent les consulter. Mais je crois que penser à sa postérité, à la fois, j'ai envie de dire qu'il était trop jeune, parce qu'il avait une vie devant lui. Donc, simplement, en effet, il se pose certaines de ces questions dans son livre, parce qu'il est en prison, parce qu'il est entravé, parce qu'il ne peut plus agir, et parce que l'inquiétude, au fur et à mesure des années, est de plus en plus forte. Et autant au début, il pense que, bon, comme beaucoup, que la guerre... il sait très bien que la prison pour lui ne s'arrêtera que si la guerre est gagnée. Parce que non seulement il n'attend rien de ce gouvernement de Vichy, mais il a les pires inquiétudes. Et plus le temps passe, plus évidemment il a des inquiétudes. Et il faut se rappeler qu'il a été assassiné quelques jours après le débarquement.
Alors, avant de poursuivre sur ce mémorial, pour clore le chapitre des réalisations, donc on ne peut pas toutes les faire, mais il y en a une, alors c'est peut-être pas la plus importante, mais on est sur Radio Campus, donc on ne pouvait pas ne pas en parler, c'est les radios scolaires.
Oui, alors la radio à l'époque était un tout nouveau média, si on peut dire, enfin le terme n'existait pas. Il y avait très très peu de gens qui avaient des radios, et en effet il a développé d'abord la radio en elle-même, et surtout il l'a introduit en effet dans les établissements scolaires. Donc c'est la radio scolaire en même temps que le cinéma scolaire. Hein. C'est-à-dire que, et là un aspect nouveau dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il a essayé de développer une pédagogie très innovante. Et qui était en contradiction avec ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire des moyens en effet très modernes, hein, mais aussi, alors j'en ai pas parlé, mais il y a toute la démocratisation du système éducatif, hein, le fait qu'au lieu de filières verticales qui faisaient qu'il y avait pour un enfant de 7 ans, s'il était d'une classe relativement aisée, il allait dans les classes de petits lycées. Et s'il était d'une classe populaire, il allait à l'école élémentaire. Et ceux qui étaient à l'école élémentaire n'avaient aucune possibilité d'aller à l'université. Donc c'était les écoles primaires supérieures dans le meilleur des cas. Et ensuite, il fallait aller au boulot. Et les autres filières, c'est eux qui avaient accès à l'université. Il a unifié tout ça, c'est-à-dire il a mis tous les élèves de l'âge primaire dans une même direction. Donc tout le monde à l'école élémentaire. Ensuite, le second degré, tout le monde au lycée, ça s'appelait encore le lycée, maintenant c'est le collège, etc. Donc ça, c'est très important de rappeler ça, parce que ça permettait aux jeunes de passer d'une filière à l'autre, et donc d'accéder à l'université, parce que c'est aussi l'accès à l'université qui était en jeu. Et puis, peut-être parler encore pour l'université de quelque chose d'important, c'est le sport. Le sport, à l'époque, il est le premier à parler de sport et de loisirs, mais en particulier du sport, parce que jusqu'à 36, le sport, c'était l'armée, quoi.
C'était la gymnastique militaire.
Oui, voilà, c'était militaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi les régimes fascistes se sont emparés du sport. Hein. On sait quelle place ça avait dans l'idéologie nazie et fasciste. Et lui, donc le sport, il va le scolariser, c'est-à-dire il l'introduit dans l'école. Alors, il dépose un projet de loi disant l'éducation physique sera désormais obligatoire. Là encore, opposition. Comment il va embrigader nos enfants, bon, etc., etc. Et donc, comme d'habitude, il détourne l'obstacle. Quand l'obstacle est trop grand, il détourne. Et il va procéder par expérimentation. C'est-à-dire, il expérimente dans 3 départements, dont le Loiret, une heure d'éducation physique quotidienne et une après-midi de ce qu'on appelait le plein air. L'après-midi de plein air, c'est-à-dire où les enfants allaient au stade, allaient faire du sport, sortaient de l'établissement. Et ça, c'est une très grande nouveauté. Et alors, pour les étudiants, il a aussi intégré le sport dans le cursus universitaire. Et ça, c'est important parce que c'est toujours la question de l'équilibre, de prendre le jeune dans sa totalité, hein, et de ne pas le tronçonner en plusieurs préoccupations.
Alors,
je peux ajouter quelque chose sur l'université. Juste rapidement, il y avait 2 écoles normales supérieures, les garçons et les filles. L'école normale supérieure de Sèvres, c'est toujours l'école normale supérieure de filles, était largement méprisée par rapport à l'autre. Elle dépendait de l'enseignement secondaire, alors que l'autre, Ulm, dépendait de l'enseignement supérieur. Elle n'avait pas les mêmes programmes, etc. Et il va unifier les programmes de ces 2 écoles en intégrant donc l'école normale supérieure de Sèvres exactement dans les mêmes conditions que celle d'Ulm. Donc c'est important parce que ça, c'est la promotion de l'enseignement universitaire pour les filles.
Donc Jean Zay a énormément contribué au niveau éducatif, mais aussi au niveau des arts, je crois, et notamment au niveau du cinéma. Donc là, il y a le Festival de Cannes qui vient de se terminer, et il me semble que c'est lui qui en est le fondateur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Oui, alors, donc, on vient de dire, il soutient le cinéma. D'abord, sur le plan personnel, il adore le cinéma. Ma mère nous a toujours raconté que dès qu'il avait une soirée, dès qu'il pouvait dégager une soirée dans son emploi du temps de ministre, qui était très chargé, il téléphonait à ma mère, on va au cinéma, ils y allaient. Donc, il aimait beaucoup le cinéma. Vous savez que le Front Populaire a beaucoup développé le cinéma aussi, il y a des très grands films. Et arrive 1938. Et il y avait à l'époque un festival international qui se déroulait à Venise. C'était la Mostra de Venise, qui existe d'ailleurs toujours. Et peu à peu, la Mostra de Venise, c'était Venise, c'était dans l'Italie fasciste. Et le palmarès du festival de 1938 est totalement pris en main par les deux régimes, Hitler et Mussolini. C'est-à-dire qu'Hitler impose le premier prix. Il impose le fameux film « Les dieux du stade », qui est un film de propagande pour le fascisme, et un autre film italien d'un Italien. Et les pays démocratiques qui assistent à cette mostra s'en vont absolument furieux. Les Américains sont furieux aussi parce qu'aucun de leurs films n'avait été sélectionné. Et donc ils se disent « On ne retournera pas à Cannes ». Bien. Mais on veut quand même un festival international, et c'est là, en effet, mon père qui, alors évidemment pas tout seul, puisqu'il y a quelqu'un qui s'appelait Philippe Erlanger, qui a eu un rôle important, qui est venu le voir, qui avait été à Mostra, qui dit voilà, c'est pas possible, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Mais il fallait prendre la décision politique.
Oui, c'est
politique, la décision politique,
aussi.
C'était important parce que d'abord, il fallait trouver un lieu, une ville, il fallait faire une sélection, il fallait tout préparer en quelques mois. Et en plus, il y a eu une opposition au sein du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y avait une partie du gouvernement, les partisans de Munich, qui disaient « Ouh là là, faut pas faire ça parce que ça va vexer Mussolini ». Et donc, envers et contre tout, et on retrouve la volonté politique qu'il avait, il prend la décision, il trouve les crédits, on choisit une ville. Alors comme ville, il y avait trois villes, ou quatre, je ne sais plus, il y avait Biarritz, candidate, Cannes et Vichy. C'est Cannes qui est choisi, et en quelques mois, on prépare tout ça, on sélectionne les films, on prépare tout l'accueil des vedettes, et le festival doit se dérouler du 1er au 20 septembre. L'affiche est prête, je l'ai là, 1er au 20 septembre, premier festival de Cannes. Les vedettes américaines sont arrivées des États-Unis, il y avait des grandes vedettes à l'époque. Les hôtels les ont accueillis, et le festival devait ouvrir le 1er septembre, et le 2 septembre la guerre est déclarée, donc il n'a pas lieu, et ça n'est qu'à la libération qu'on ressort des cartons le projet, et que le premier festival aura lieu. Mais là encore, comme pour l'ENA, on va oublier de dire que c'est Jean Zay, le créateur du festival. Mais je pense que c'est très important de rappeler pourquoi on a fait ce festival de Cannes. Alors, il y avait en même temps que ce geste politique, il y avait bien sûr le désir de créer un événement culturel, il le dit, international. Il insiste déjà sur l'aspect international, qu'aucun pays ne sera privilégié, justement pour lutter contre la Mostra de Venise, qui lui privilégiait les films allemands et les films italiens. Donc, et il dit, ça va devenir avec une sorte de vision, parce que tout le monde s'accorde à souligner l'aspect visionnaire de son action, que ça allait devenir un très grand événement culturel.
Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on revient après. Donc, je laisse la parole à Anaïs.
On fait une pause musicale donc avec Cheveux et le titre Lola Langusta sur le 88.3 FM.
Let's go, you honey bunny bun style. Let's go, you real woman. I like your style. Come show Lola. Oh, Langone style. Bling, 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 honey here. I've been out of it. Hey, Lola. Lola Langone style. So sick, I see all the colors inside of my face. So sick.
Sur le 88.3 FM. On est toujours avec notre invitée Hélène Moucharzet.
Oui, alors on a discuté hors antenne, vous vouliez parler un petit peu de ses actions en matière de théâtre.
Oui, parce qu'il a une action très importante pour le théâtre. Et là encore, les mots-clés pour lui, c'était démocratisation, soutien aux jeunes compagnies. C'était aussi vers trouver, et toujours en l'esprit du Front populaire, aller vers un théâtre populaire, c'est-à-dire un théâtre qui soit ouvert au peuple, alors par une politique tarifaire, mais aussi par en favorisant un certain nombre de théâtres. Le TNP qui existe actuellement, c'est lui qui l'a mis à Chaillot, qui a augmenté son budget. Et puis il a une action très importante pour la Comédie française qui était en crise, mais vraiment en crise, à deux doigts de disparaître. Et là, il va redresser cette Comédie française parce qu'il va confier sa direction à Édouard Bourdet en lui disant « Vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez le répertoire que vous voulez. » Et il lui met auprès de lui quatre metteurs en scène des très grands hommes de théâtre. C'était Batty, Dulin, Jouvet et j'en oublie un. Et ça me reviendra. Enfin, les quatre du cartel et qui vont faire démarrer la Comédie française. Et au bout de quelques mois, il le dit dans Souvenir et Solitude, la Comédie française était redevenue la première scène au monde. Il a favorisé aussi, il a fait un projet sur le droit d'auteur, hein, pour préserver les droits de l'auteur, bon, etc., etc.
Il s'était un petit peu essayé au théâtre ou pas du tout ? Il s'était un petit peu essayé au théâtre ?
Oui, quand il était tout jeune, hein, mais vraiment quand il était tout jeune.
Alors, un livre qui est beaucoup revenu là au fil de la discussion, c'est Souvenir et Solitude, hein, où il explique un peu sa pensée, sa réalisation. Alors c'est un livre qu'il a rédigé quand il était détenu, donc en 40. On peut expliquer un petit peu l'histoire de ce livre, comment est-ce que John a récupéré le manuscrit
Oui, alors, il a en effet écrit en prison. Il faut savoir que tout ce qui sortait de la prison était soumis à la censure. Donc, ces pages de Souvenirs et Solitude, il va les faire sortir clandestinement. Alors comment? D'abord, pendant sa détention, au début, hein, il a un avocat qui obtient pour lui un statut proche du statut de prisonnier politique, c'est-à-dire trois choses, la possibilité d'avoir des visites sous certaines conditions, évidemment, il fallait que ça soit estampillé, le droit de recevoir la presse, pas n'importe quelle presse, et le droit d'avoir du tabac, ce qui pour lui était très important. Donc il reçoit quelques visites sous conditions, et certaines de ces visites sont des résistants, évidemment. Les autorités de la prison ne le savent pas, en particulier les premiers résistants. Il y a un des premiers réseaux, c'est le réseau du Musée de l'Homme, son collaborateur le plus direct, Marcel Abraham, mais aussi Jean Cassou, etc. Et donc, il confie parfois à ses visiteurs des feuillets, parce qu'il écrit ça sur des feuillets. Il n'a pas un cahier, vous savez qu'il y avait une pénurie de papier. Donc, il écrit souvent ça au dos d'autres notes qu'il a prises. Et puis surtout, la plus grande partie, on sait comment c'est sorti. Quand ma mère venait le voir, elle faisait rentrer dans la prison ma voiture d'enfant. On n'appelait pas ça un landau à l'époque, parce que j'étais bébé. Et les voitures d'enfants de l'époque, si vous voyez des photos, avaient un fond. Et ils cachent les feuillets dans ce fond de la voiture d'enfant, et c'est ma mère qui les fait sortir. Et c'est comme ça que feuillet après feuillet, clandestinement, ces feuillets sont sortis. Et au moment de... Alors, il voulait évidemment faire un livre, hein, parce que c'est composé comme un livre, c'est écrit comme un livre, il aimait beaucoup écrire. Quand il était jeune, il a hésité, hein, entre faire de la politique et devenir écrivain, puis il a choisi la politique. Mais il retrouve ce goût, cette passion d'écrire, donc c'est un livre très bien écrit, très beau, en particulier sur la façon dont il parle de ce qui se passe pour lui, de sa détention. Des amis, après son assassinat, vont recueillir ses feuillets, en particulier Jean Cassou, qui est quelqu'un d'assez connu, qui va devenir directeur du musée d'art moderne, et qui va le publier sous le titre « Souvenirs et solitude » en 1946. Et c'est Julliard qui va le publier, et au fur et à mesure du temps, cet ouvrage va être édité jusqu'à la dernière édition il y a 2 ans en poche, et c'est important que ce soit en collection de poche parce que c'est pas cher, et par les éditions Belin.
Alors justement sur les rééditions, on voit la première édition 46 et la seconde 87, donc c'est-à-dire qu'il y a 40 ans sans réédition, et c'est un petit peu aussi 40 ans où le souvenir de Jean Zé s'efface un peu avant de revenir sur la mémoire. Donc comment est-ce que ça se fait que Jean Zé a déjà été oublié pendant une période et a ressurgi tout d'un coup?
Oui, alors ça, c'est l'histoire de la mémoire la mémoire de Jean Zé rejoint une problématique de la mémoire qui a été celle en général de la France. Mais pour lui, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été assassiné en 1944 et qu'on a su ce qui s'était produit qu'en 1948. C'est-à-dire que en 1944, il disparaît. C'est des miliciens qui l'enlèvent et qui l'assassinent au fond des bois du côté de Vichy, et qui font disparaître son corps en allant chercher la dynamique pour qu'il n'y ait plus de traces. En 1946, des chasseurs, c'est au fond vraiment de la montagne, hein, des chasseurs découvrent les restes de 2 corps qu'ils n'identifient pas et qui sont enterrés anonymement dans le cimetière de Cussé, qui est une ville près de Vichy. Mais on ne sait pas, toujours pas ce qu'il est devenu. Et en 1948, un des assassins, ils étaient 4, un des assassins est arrêté après un périple absolument invraisemblable, c'est-à-dire comme beaucoup de collaborateurs, il s'est réfugié à la Libération en Allemagne. Ensuite, il est allé en Italie, où là, il a été caché dans des couvents de bonnes sœurs. Et de là, il a réussi à s'embarquer pour l'Amérique du Sud. Vous savez qu'il y a beaucoup de collaborateurs d'anciens nazis qui se sont réfugiés en Amérique du Sud. Et c'est au moment où il allait débarquer que la police américaine l'arrête, parce qu'il y avait eu un mandat d'arrêt, le rapatrie en France, 48. Et c'est lui qui raconte ce qui s'est passé. Donc, de 44 à 48, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ma mère ne sait rien. On sait qu'il a été assassiné, mais on n'a aucun détail. Et après 48, il va y avoir réhabilitation de ce jugement infâme, il va y avoir citation à l'ordre de la Nancy. Il y a des grands hommages qui lui sont rendus par le président de la République, etc. Et puis sa mémoire va être prise dans la difficulté qu'a eu la France de reconnaître la mémoire de Vichy. Je l'ai dit tout à l'heure, à la Libération, qui est-ce qu'on glorifie? De qui célèbre-t-on la mémoire? De Gaulle, enfin qui n'est pas encore mort, mais enfin des résistants, parce que c'est glorieux pour un pays d'avoir eu des résistants. Mais on parle très peu de la collaboration et de Vichy. Le procès de Pétain qui a été jugé en 1945, il a été jugé pour le motif de trahison. Il n'a pas été jugé pour les crimes de la milice, il n'a pas été jugé pour la complicité de la déportation des Juifs de France. Il n'a pas été jugé, on n'a pas parlé de ça, enfin, ou très peu. Et les autres procès, par exemple, le patron de la milice d'Arnan, il n'a absolument pas été question de l'assassinat de Jean Zay. C'est-à-dire que, voilà, la France a vraiment eu du mal, il a fallu 50 ans. Et on retrouve ça dans la mémoire des camps du Loiret, enfin, peut-être vous êtes au courant, où des milliers de Juifs ont été internés puis déportés. L'existence de ces camps du Loiret, il a fallu plus de, à peu près 50 ans pour qu'on la reconnaisse. C'est-à-dire, bon, mais sa mémoire, ce qu'il faut savoir, c'est que sa mémoire a été très présente dans les milieux de l'éducation. Elle a toujours été très forte, très présente. D'ailleurs, il y a plus de 150, il y a plus de 200 établissements qui portent, scolaires qui portent son nom en France, un petit peu partout, beaucoup dans le Nord en particulier. Donc sa mémoire était très vivante dans les milieux scolaires et universitaires, aussi parce qu'il y a eu ses collaborateurs qui l'ont entretenue. Et puis en effet, dans le reste de l'opinion, il y a eu comment les qualifier, où sa mémoire a été absente, ou bien, non pas oubliée, mais peu présente dans la mémoire collective. Chez les historiens, son rôle a beaucoup été souligné. Mais là, on parle de questions de mémoire. Et c'est donc, en effet, à partir, disons, je dirais, des années, peut-être 94, c'est-à-dire le 50e anniversaire de son assassinat. Ici, à Orléans, il y a le baptême de l'avenue Jean-Zay. C'est seulement 94.
Ce silence, vous l'expliquez ?
Ben, je viens d'essayer de l'expliquer un petit peu. Il est pris... Son assassinat, c'est une affaire franco-française. C'est pas les Allemands. Enfin, évidemment, ça ne serait pas produit s'il n'y avait pas eu l'occupation. Mais c'est une histoire franco-française. C'est-à-dire, on est au cœur de la fracture dans la société française, une fracture profonde et qui, à mon avis, subsiste toujours. Et il me semble qu'on l'a vu assez récemment, puisque vous souhaiteriez qu'on parle d'une période plus récente. Parce que, si vous voulez, cette fracture profonde entre eux, qui a évidemment, qui s'est déployée au moment de Vichy, parce que Vichy, c'est un moment de guerre civile, hein, de franco-française, la création de la milice, les assassinats de Jean-Zay, il faut rappeler aussi Victor Bache, par exemple, ou bien de Mandel, qui a été assassiné exactement dans les mêmes conditions que mon père, 8 jours après, en juillet 1944. Je pense qu'il y a en France... Et depuis, alors il faudrait remonter à la Révolution française, si vous voulez, et à ce qu'a été le... Il y a eu la Révolution française, et puis il y a eu toute cette résistance, et tout au long du XIXe siècle, ce mouvement de droite, d'extrême droite, contre les Lumières, j'ai envie de dire. Il y a des historiens disent volontiers que Jean-Zay était un homme des Lumières, hein, c'est-à-dire l'esprit du XVIIIe siècle, de la Révolution française, qui a continué... Qui s'est perpétué et qui arrive avec lui au Front populaire. Mais donc c'est ça qui s'est, non pas réveillé, parce que c'est sous-jacent, moi je pense. Et je pense qu'on n'en est pas sorti. Donc cette fracture, ben, pendant longtemps, on n'a pas voulu la regarder en face. Quoi. Moi, c'est comme ça. Et puis il y a le fait aussi qu'il n'était pas là pour défendre ce qu'on disait tout à l'heure, le festival de Cannes, l'ENA, c'est ce qu'il avait fait. Donc beaucoup de ses idées ont été reprises à la Libération, ça tous les historiens vous le diront. Il y a d'ailleurs vendredi prochain, le 14 juin à Paris, un colloque qui va réfléchir au thème suivant, comment les idées de Jean-Zay en matière d'éducation peuvent inspirer les politiques actuelles. C'est dire l'actualité de ses idées. Et je pense que on n'en a pas fini non plus. Alors, il y a des moments, si vous voulez, où c'est plus ou moins enfoui. Je pense que ça a été beaucoup enfoui dans ces années dont vous parliez, parce qu'il y avait besoin de la réconciliation. L'assassin de Jean-Zay, savez-vous quelle date il a été jugé ?